SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tungandamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner ce jeudi 4 juillet. Au sommaire de cette édition, on reviendra sur l'entre-deux-tours des législatives en France. Comme tous les jeudis, on va braquer nos projecteurs sur l'économie australienne. On parlera aussi de musique avec Justin Taylor en tournée actuellement en Australie. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce jeudi. À la une, au moins 4 manifestants pro-palestiniens grimpent sur le toit du Parlement à Canberra. Et en France, Roland Dumas, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères et ex-président du Conseil constitutionnel, est mort hier alors que les tractations de l'entre-deux-tours des législatives se poursuivent. Et le Hezbollah confirme la mort d'un important chef militaire dans une frappe israélienne. Au moins 4 manifestants pro-palestiniens ont grimpé sur le toit du Parlement fédéral à Canberra. Le groupe a déployé des grandes banderoles, l'une indiquant « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », les autres affirmant que le gouvernement australien est complice de génocide. Un certain nombre de policiers et d'agents de sécurité étaient sur place, mais n'ont pas tenté de faire descendre les manifestants de cet endroit précaire. La coalition fédérale affirme que les pouvoirs de cession sont nécessaires pour permettre aux petites entreprises d'être compétitives dans les secteurs de la distribution. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a annoncé le projet de la coalition de légiférer pour pouvoir démanteler les supermarchés impliqués dans des activités anticoncurrentielles. Le gouvernement albanaisé a de son côté exclu de légiférer en la matière, affirmant que cela ne permettrait pas de stimuler la concurrence dans le secteur de la distribution. M. Dutton précise que des lois similaires ont fait leur preuve dans d'autres pays.
I want to get grocery prices down in this country. And through this policy, which is a policy that's already in existence in the United States, the United Kingdom, Canada, most other Western democracies, if there is market abuse, if Coles and Woolies are driving up the prices of groceries, I'm not standing with Coles and Woolies, I'm standing with the customers. And I want prices to come down.
Un rapport révèle que les loyers dans la plupart des grandes villes australiennes sont en baisse, stagnent ou augmentent à un rythme plus lent. La plateforme immobilière Domain suggère que des faibles taux d'occupation avaient poussé les loyers à la hausse pendant plusieurs mois consécutifs, mais les conditions commencent à s'améliorer pour les locataires. Les loyers ont chuté de 1,8% à Hobart au cours du trimestre de juin et sont restés stables à Sydney et à Perth. En France, l'ex-avocat et homme politique français Roland Dumas s'est éteint ce mercredi 3 juillet à l'âge de 101 ans. L'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, dont il était un intime, fut également président du Conseil constitutionnel en France. Roland Dumas a mené une vie pleine de rebondissements. Anthony Lethier de RFI revient sur ce personnage hors norme.
Sa carrière, Roland Dumas l'a construite main dans la main avec François Mitterrand. Les deux hommes se rencontrent dans les années 50 et ne se quitteront plus. Avocat pour le Canard enchaîné, Roland Dumas défend le futur président dans la trouble tentative d'attentat de l'Observatoire. Élu, François Mitterrand nomme Roland Dumas ministre des Affaires étrangères. Il axe résolument sa politique et ses réseaux vers le monde arabe. Comme un dernier cadeau, François Mitterrand fait de son vieil ami le sixième président du Conseil constitutionnel. Mais Roland Dumas a bien du mal à être sage et valide les comptes de campagne manifestement irréguliers de Jacques Chirac avec une formule « Je suis convaincu que j'ai sauvé la République ». 4 ans après sa nomination, il est rattrapé par la justice, cité dans ce qui deviendra plus tard l'affaire Elf, tombé pour une paire de bottines Berluti achetée par sa maîtresse avec la carte bleue de l'entreprise à l'époque où il était encore ministre. Roland Dumas sera condamné puis relaxé. Mais avec l'âge, Roland Dumas préfère à la discrétion l'irrévérence et ne cache pas ses amitiés. Kadhafi, Dieudonné ou encore Laurent Gbagbo qu'il soutient en 2010. En 2015, il soupçonne le Premier ministre Manuel Valls d'être, je cite, « sous influence juive ». Énième scandale pour cet homme politique aussi sulfureux que charismatique.
Et toujours en France, après le score inédit du Rassemblement national au premier tour des législatives, 221 candidats se sont désistés à gauche et dans le camp présidentiel ce lundi. L'objectif ? Empêcher l'extrême droite d'obtenir la majorité absolue le 7 juillet, voire mettre sur pied une grande coalition. Pour Frédéric Michaud, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway, le fameux Front républicain est une étape pour empêcher une majorité absolue au RN.
On est en train, en ce moment même, de mesurer les intentions de vote. On attendait la validation officielle des candidatures pour le second tour qui est intervenue hier soir en fin de journée à 18h. Donc là, les intentions de vote sont en cours de réalisation. On fera des prévisions à partir de demain. Mais on a déjà une idée du positionnement des électeurs dans les différentes configurations. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que le Front républicain, donc cette stratégie de désistement qui vise à bloquer le Rassemblement national, devrait avoir des effets au plan électoral et devrait bloquer toute une série de députés du Rassemblement national, en tout cas interdire leur élection. Donc on peut faire l'hypothèse que le nombre de députés dans la future assemblée dimanche, le nombre de députés du Rassemblement national sera très inférieur à celui qu'il aurait pu être si ces désistements n'avaient pas eu lieu.
Et toujours concernant l'entre-deux tours, la tension était très tendue hier soir. La porte-parole du gouvernement affirme avoir été victime d'une agression alors qu'elle collait des affiches. Et toujours dans le cadre de cette campagne électorale inédite, la société civile et la communauté musulmane, inquiets de retomber de la montée en puissance de l'extrême droite, se sont rassemblés. Objectif, faire barrage au Rassemblement national. Aaron Beng de RFI était sur place.
Appeler à la mobilisation et exprimer une volonté commune de défendre les valeurs de la République, c'est l'un des objectifs des participants à la conférence. Chems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris.
Nous appelons d'abord à la mobilisation de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines, pour le second tour des élections législatives. Nous appelons ensuite à défendre les valeurs républicaines dans les urnes.
Valeurs républicaines qui, selon Myriam Eladji, professeure de médecine à l'hôpital Raymond Poincaré, sont mises à mal par le Rassemblement national.
La fraternité, l'égalité et la liberté sont nos valeurs qui nous unissent. Dans le débat actuel, l'égalité, c'est la valeur qui est mise en cause. Quand nous écoutons les discours du RN, nous avons l'impression non plus d'être côte à côte en tant que citoyen français, mais d'être mis face à face. En tant que membre de la société civile, je trouve que s'engager dans la période actuelle fait sens.
Les participants à la conférence rappellent la nécessité de ne pas accepter que des politiques séparent la nation en catégories ethniques ou religieuses pour ensuite les dresser les uns contre les autres.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'au moins 5 civils ont été tués et plus de 50 ont été blessés après une frappe russe sur la ville ukrainienne du Dniepr. Plusieurs personnes ont également été tuées lors des frappes russes dans la région de Kharkiv. Parlant des capacités de défense aérienne, le président Zelensky a déclaré qu'il espérait que la décision de fournir à l'Ukraine des systèmes Patriot serait prise lors du prochain sommet de l'OTAN à Washington.
We can stop all this with only one thing, only with a large number of air defense systems, only with long-range strikes on the locations where Russian terrorists are based, on their bases. We are actively talking about all this with our partners at all levels. We are preparing for the NATO summit in Washington, in particular from the point of view of the Patriots for Ukraine.
Et la guerre, qui est dans sa troisième année depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a coûté la vie à plus de 10 000 civils et blessé environ 20 000 autres, selon les Nations Unies. Au Moyen-Orient, le Hezbollah a confirmé la mort de l'un de ses hauts commandants dans le sud du Liban à la suite d'une frappe aérienne israélienne dans la région. Et des récentes recherches démontrent que depuis le mois d'octobre, Israël a utilisé du phosphore blanc dans 175 attaques différentes contre le sud du Liban. Les munitions au phosphore blanc ne sont pas interdites en tant qu'armes chimiques. Elles peuvent être utilisées pour fabriquer des écrans de fumée et brûler des bâtiments. Mais comme elles peuvent provoquer des graves brûlures, il est interdit de les utiliser contre des cibles situées à proximité de civils. Un rapport de décembre du Programme des Nations Unies pour le Développement indique que le phosphore blanc est extrêmement dangereux et crée un risque sérieux pour la santé humaine. Le chercheur de Human Rights Watch, Ramsey Case, affirme que l'utilisation par Israël de munitions explosives au phosphore blanc dans des zones peuplées nuit sans discernement aux civils et a conduit beaucoup d'autres à quitter leur foyer.
In this report, we document the use of white phosphorus in at least 17 municipalities noted here, including five of which it was used unlawfully directly over populated areas. We do go into the use of white phosphorus in armed conflicts, but also its incendiary effects and the effects that it can have on civilians, where even minor wounds can be fatal and can cause lifelong suffering.
Retour en Australie et toujours avec Human Watch, l'organisation appelle le gouvernement australien à adopter de toute urgence des réformes garantissant une protection plus renforcée des données des enfants contre toute utilisation non consensuelle dans le cadre de l'intelligence artificielle. Human Rights Watch révèle que des photos d'enfants australiens étaient utilisées pour entraîner des outils d'intelligence artificielle sans le consentement ni la connaissance des enfants ou de leur famille. Kye Jung Han, chercheur sur les droits de l'enfant et la technologie à Human Rights Watch, souligne que la plupart de ces photos étaient celles de moments intimes en famille.
Some of these photos come from schools' websites where schools wanted to share with parents and kids images they'd taken at school events. And they posted these images of kids on parts of the website that's not really publicly accessible. And yet, this data set, this AI data set was scraping from that. And the same thing has been happening, whether it's on YouTube or Flickr or other video and photo sharing sites as well.
Et il est peu probable que la Nouvelle-Zélande puisse réinstaller l'intégralité du nombre de réfugiés actuellement détenus à Nauru qu'elle avait accepté d'accueillir dans un accord conclu en 2022 avec l'Australie. L'accord passé entre des précédents gouvernements australiens de Nouvelle-Zélande prévoyait que la Nouvelle-Zélande accueillerait 450 réfugiés du centre de détention de Nauru entre 2022 et 2025. Seules 210 personnes ont été acceptées par la Nouvelle-Zélande depuis 2022 et seulement 172 parmi ces personnes ont été effectivement réinstallées. Alors que d'autres migrants ont été redirigés vers le Haut Commissariat aux réfugiés pour traitement, la complexité de ces cas fait qu'il est difficile de savoir combien d'entre eux seront éligibles à la réinstallation en Nouvelle-Zélande avant la fin de l'accord en 2025. Et pour conclure ce journal, un point météo, Perth 19 degrés, Adelaide 16, Melbourne 13, Hobart 11, Canberra 13, Wollongong 17 degrés, Sydney 18, Newcastle 18 également, Brisbane 21, Cairns 27 degrés et Darwin un temps ensoleillé avec un maximum de 31 degrés. 13h14 et 19 secondes sur les antennes de SBS Audio. À présent, une courte pause et après on retrouve le magazine des sports de Jean-Noël Ducasse.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France. Hier, la 5e étape remportée par Mark Cavendish. La 35e victoire pour le Britannique sur la grande boucle. Et il bat le record de Eddy Merckx. Babacar Diarra pour RFI.
En remportant à Saint-Vulbas, le Britannique, l'étape du jour, hein, le Britannique a remporté sa 35e victoire d'étape en carrière sur la grande boucle. C'est un record. La première, c'était lors du Tour 2008. Il dépasse ainsi l'ancien détenteur du record, le Belge Eddy Merckx. Cavendish réalise cette performance à l'âge de 39 ans. Au classement général, pas de changement. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar, tandis que l'Érythréen Binyam Guermé continue de se faire remarquer après sa victoire d'étape il y a deux jours. Il endosse le maillot vert de meilleur sprinter.
Et on écoute un extrait du Tour de France sur la télévision SBS.
Abrahamson on the front. Started, they've been caught on the barriers. They need to find a way through. Cavendish is deep in traffic.
Well, so far Jakobsen in a good position, but it's still too early. 7:50 to go.
Philipson waits. He's got Bauhaus behind him. Binyam Guermé is caught a long way back. Cavendish is in an ideal spot. He gets onto the wheel of Philipson. Gaviria comes through. He rubs shoulders with Bauhaus. Somehow they stay upright. Now Gaviria is rubbing shoulders with Cavendish. Cavendish wins that battle. Vanderpool tries to squeeze on through. Ryan Gibbons starts, and he starts early. He's got Vandenberg on his wheel. It's Pascal Ackermann in the mix. Cavendish is a chance. He opens up. The hunt is on. He's looking for number 35. The wheels in front. They fall behind. The legend grows bigger. It's history again. Cavendish, number 35.
Here's the sprint. Take us through it.
Well, Cavendish moving around the wheels. He's now sitting there behind the rider from Israel Premier Tech. It's a huge lead out from Ryan Gibbons. Now we see Ackermann accelerate. But Cavendish has huge amount of space here. Philipson tries to go across the road and get on the wheel, but he has no match for that velocity. Ample time for Cavendish to celebrate.
Les JO de Paris et le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, s'est prononcé, entre autres, sur les élections du week-end prochain. On écoute un extrait sur RFI.
France est en train de vivre un moment démocratique majeur de l'histoire de notre pays. Nous, bien évidemment, on regarde ça avec beaucoup d'attention. On est embarqué dans cette aventure depuis maintenant 10 ans. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on a cette mission d'ouvrir grand ces jeux, de repousser le niveau d'ambition le plus haut possible pour offrir finalement ce que ce pays a de mieux à offrir. Malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, que ce soit les attentats en phase de candidature, que ce soit le Covid, que ce soit des conflits internationaux ou des tensions sociales en France. Et plus que jamais, moi je souhaite qu'on puisse garder cet état d'esprit jusqu'au bout de la livraison de ces jeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je souhaite vraiment que, en respectant ce que les Français vont décider le week-end prochain, qu'on puisse continuer la livraison. Il reste encore du travail et c'est important pour moi de vous rappeler l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui à 24 jours du début des Jeux.
Et puis les derniers tournois de qualification de basket pour les JO, 8 tickets ont déjà été validé, comme nous l'explique Sofiane Amazian pour RFI.
24 sélections s'affrontent à travers le globe avec l'espoir de récupérer l'un des 4 sésames pour disputer les Jeux Olympiques de Paris. Parmi les 4 tournois organisés, celui de Porto Rico est particulièrement relevé et ce n'est pas un cadeau pour les Ivoiriens. Les vice-champions d'Afrique 2021 débutent par un duel corsé, la Lituanie habituée au haut niveau mondial. Médaillée de bronze lors des championnats du monde 2010, 6e en 2023, la sélection portée par le pivot des Kings de Sacramento, Domantas Sabonis, est ultra favorite. Ensuite, la Côte d'Ivoire, qui a disputé les 2 derniers mondiaux, affrontera le Mexique, un match a priori plus abordable, avant de peut-être retrouver en demi-finale l'Italie, 13e nation mondiale, 5e lors des Jeux de Tokyo, ou bien le pays hôte Porto Rico. Le ticket de qualification olympique sera attribué au vainqueur de la finale du tournoi. Les joueurs de Nacho Lescano voudront jouer les troubles faits avec une équipe moins impressionnante que prévu. Présent en match de préparation de juin, le français Ismaël Kamagaté, qui a changé de nationalité sportive cette année, et surtout Mohamed Bamba, intérieur de 2m13 et fraîchement transféré du côté des Clippers de Los Angeles, ne disputeront pas le TQO. Le nouveau règlement de la Fédération internationale de basket ordonne un délai de 45 jours pour validation du dossier administratif.
On passe au foot, l'Euro. Avec mardi, il y avait les deux derniers matchs de huitième de finale, avec la victoire des Pays-Bas contre la Roumanie, 3-0. Les Néerlandais filent en quart de finale. Olivier Pron, RFI.
À l'issue des deux derniers huitièmes de finale joués hier, Nathalie, en Allemagne, qualification de la Turquie 2-1 aux dépens de l'Autriche, qui s'est réveillée trop tard, ça arrive. Juste avant et très logiquement, les Pays-Bas avaient aussi validé leur ticket pour le top 8. Succès net, 3-0 sur la Roumanie. Les buteurs, Gakpo, 20e minute, puis doublé de Malen dans les 10 dernières. Sortis parmi les meilleurs troisièmes de poule, les Néerlandais avaient des choses à se faire pardonner. C'est chose faite pour le plus grand plaisir du latéral, Denzel Dumfries.
Je suis très fier de la prestation de l'équipe. Nous avons bien joué, nous avons joué avec beaucoup de concentration. Nous nous sommes créés énormément d'occasions. Nous aurions pu plier l'affaire plus tôt. C'est un peu de ma faute. D'ailleurs, j'ai péché dans le dernier geste. Mais dans l'ensemble, je suis fier de l'équipe parce que nous nous sommes battus jusqu'à la fin en démontrant tout le talent qu'il y a dans cette sélection. Les leçons du match face à l'Autriche ont été retenues. Nous avons beaucoup échangé la semaine dernière. Ça s'est vu dans notre pressing, dans notre conservation du ballon en sortant du match face à l'Autriche. Nous n'étions pas satisfaits et cette fois nous avons été bons.
Et puis la Turquie a créé la surprise en battant l'Autriche 2-1. La Turquie est en quart de finale pour la première fois depuis 2008. Bilan des huitièmes de finale de l'Euro avec Antoine Grenier pour RFI.
Un but, des larmes et une bicyclette. Au rayon des souvenirs, ces huitièmes de finale de l'Euro laisseront le deuxième but le plus rapide de l'histoire de la compétition, celui de Meri Demiral pour la Turquie à la 58e seconde du match contre l'Autriche. Ce but-là permet aux Turcs d'atteindre les quarts de finale de l'Euro. Les larmes, celles de Cristiano Ronaldo, 39 ans, plus de 200 sélections, et toujours l'émotion qui affleure sous le maillot de son équipe nationale. Après son pénalty raté face à la Slovénie pendant la prolongation, CR7 s'effondre en pleurs, consolé par ses coéquipiers. Des larmes séchées quelques minutes plus tard après une séance de tir au but remportée par les Portugais. Un Ronaldo réconforté, un Bellingham triomphant, bras écartés face aux tribunes. Le numéro 10 anglais portant à lui seul les espoirs des Sri Lions. Bellingham auteur d'un retourné acrobatique à la dernière seconde du temps additionnel du match face aux Slovaques, offrant à l'Angleterre une prolongation qui lui permettra d'aller chercher la qualification pour les quarts. Un stade de la compétition que ne verra pas l'Italie. Autre moment fort, l'abattement italien au coup de sifflet final du match contre la Suisse est symbolisé par Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, héros du sacre de l'Euro 2020, impuissant à stopper la déroute italienne 3 ans plus tard.
Les quarts de finale donc à partir de ce vendredi, Espagne-Allemagne et ensuite France-Portugal. Les Bleus s'entraînent à huis clos, comme nous l'explique Babacar Diarra. Pour RFI.
Dans toutes les têtes, il y a le match face au Portugal. Autour des Bleus, les critiques portent principalement sur l'inefficacité offensive. Depuis le début du tournoi, les filets adverses ont tremblé une fois sur penalty et 2 fois grâce à des buts inscrits contre leur camp. Une des explications réside dans la blessure du capitaine Kylian Mbappé, dont le nez s'est brisé face à l'Autriche en phase de groupe. Jouer avec cette fracture impacte forcément ses performances, d'après Guy Stéphan, entraîneur adjoint de l'équipe de France.
Alors Kylian, je pense qu'on a un peu tous minimisé son traumatisme, sa fracture du nez. Ça n'explique pas tout, je suis d'accord, mais le choc qu'il a eu, il est très traumatisant. Et il joue actuellement avec un masque, il l'a dit lui-même, et tous les joueurs qui ont porté des masques le disent, pas facile de jouer avec un masque. Sinon, tout le monde jouerait avec un masque. Après, il a eu une fin de saison un peu... quel qualificatif je vais employer? Un peu éreintante, peut-être. Donc voilà, mais Kylian reste Kylian. Depuis l'Euro 2021, je crois qu'il est quasiment à un but par match avec nous. Et il y a des moments, bah, ces joueurs top niveau sont un petit peu moins bons, sont un petit peu moins en mouvement. Ça arrive à tout le monde. Voilà, ça n'empêche que il est très présent, très rassembleur dans tout ce qu'il peut amener dans la préparation.
Ensuite, les Pays-Bas vont affronter la Turquie à Berlin le samedi 6 juillet. L'Angleterre défiera la Suisse à Düsseldorf samedi également. Et puis la Roya est la seule nation encore en lice à avoir remporté tous ces matchs. D'abord victorieuse de la Croatie 3-0, de l'Italie 1-0, de l'Albanie 1-0. L'Espagne a ensuite pulvérisé la Géorgie en 8e de finale, 4-1. La finale est prévue pour le 14 juillet. On passe au tennis avec le championnat de Wimbledon qui a démarré lundi dernier avec d'abord chez les dames la championne en titre Markéta Vondrousova qui a été éliminée au premier tour. Une surprise, elle a été battue par l'Espagnole Jessica Buzas Manero en deux manches 6-4-6-2. Vondrousova déclare qu'il est difficile de gérer les attentes d'une championne en titre. On l'écoute.
Yeah, overall, you know, it was very tough and yeah, it's, you know, tough feelings also, you know, to go back and, yeah, I feel like, you know, everybody just expects you to win maybe, so that's tough too, but, yeah, I was happy to be back on the center court, but, yeah, it just, you know, didn't go as planned today.
Chez les Australiens, eh bien, l'Australienne Alia Tomljanovic a également été battue au premier tour par Yelena Ostapenko en deux manches. Les messieurs ont fait un petit peu mieux avec le numéro 1 australien Alex de Minaur qui a battu son compatriote James Duckworth en trois manches. Thanasi Kokkinakis a lui battu le Canadien Félix Auger-Aliassime en cinq manches en 4h38. Victoire aussi de Alexei Popirin qui a battu Thiago Monteiro en quatre manches. Et Adam Walton a battu Federico Coria. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Et c'était Hervé dans sa chanson « Sémaphore », une chanson extraite de l'album « Adrénaline ». Vous êtes toujours à l'écoute du français sur SBS Audio. On continue notre couverture de l'entre-deux tours des législatives, cette fois-ci sur le continent africain, après une courte pause. On continue donc sur l'entre-deux tours des législatives 2024. Si l'atmosphère est de contenir, voire contrer l'élan de l'extrême droite en hexagone, eh bien sur le continent africain, on s'interroge aussi sur les conséquences de ces législatives, mais à d'autres niveaux. Décryptage, Nathalie Amar et Frédéric Couteau pour RFI.
Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
À la une de la presse africaine, les législatives en France vues du continent.
Oui, interrogation et appréhension dans la presse du continent après la percée du Rassemblement national au premier tour de scrutin dimanche. Au-delà des frontières françaises, l'arrivée du RN au pouvoir suscite des inquiétudes, s'exclame le quotidien malien en ligne Malikilé. Avec la perspective d'un gouvernement xénophobe et aux tendances illibérales à la tête de l'une des puissances majeures en Europe, cette éventualité souligne l'importance des décisions à venir pour l'avenir de la France et de l'Union européenne. La semaine qui vient s'annonce décisive pour la politique française. Alors que le pays se trouve à un tournant historique, les citoyens devront se prononcer entre la continuité ou bien le changement radical, décision qui aura des répercussions majeures sur l'avenir de la nation et de l'Europe dans son ensemble.
Quels enjeux pour l'Afrique, s'interroge pour sa part le pays au Burkina Faso.
La question qui taraude les esprits est celle de savoir si les Français ont cette fois-ci et pour la première fois décidé de donner les clés du palais Bourbon à l'extrême droite. dont les principales caractéristiques sont le chauvinisme, le racisme, la xénophobie et son non-respect des lois nationales et internationales de protection des droits humains, entre autres. C'est un scénario fort possible quand on sait qu'ailleurs, d'autres leaders d'extrême droite comme Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie ou encore Milei en Argentine ont déjà été élus sans coup férir.
Et pointe encore le pays, les migrants ont de quoi être inquiets.
Oui, il est évident que l'extrême droite, qui a toujours considéré les migrants comme les responsables de presque tous les maux qui minent la société française, devrait, une fois sa victoire confirmée au second tour, mettre la pression sur les pays qui bordent la Méditerranée pour qu'ils protègent les frontières hexagonales par tous les moyens. Ceux qui arriveront miraculeusement à échouer sur les côtes européennes et à entrer clandestinement en France feront l'objet de stigmatisation et de contrôle au faciès avant d'être rapatriés, menottes au poignet et sans ménagement. Et pour ceux qui voudront rallier Paris régulièrement et par les airs, ils doivent d'ores et déjà savoir que les visas seront accordés au compte-gouttes. Il sera donc encore plus difficile pour les Africains de se rendre en France.
Justement, le site d'information algérien TSA exprime ses craintes.
Le RN a promis de supprimer certaines aides sociales aux immigrés en situation régulière, de réserver les logements sociaux aux Français, d'expulser les immigrés légaux qui resteraient plus de 6 mois au chômage, même s'ils ont travaillé et cotisé pendant des années, de réduire le nombre de visas aux étrangers, interdiction du voile islamique aussi dans l'espace public, instauration de quotas pour l'abattage halal. Le RN promet également d'engager un bras de fer avec l'Algérie, pointe encore TSA, avec suppression des visas et dénonciation de l'accord de 68 sur l'immigration. Bref, soupire encore le site algérien, le RN promet de croiser le fer avec les partenaires de l'autre côté de la Méditerranée, un discours haineux et belliqueux qui semble séduire une partie de la population française, et c'est cela le plus inquiétant.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
C'était Blik Bassi, une chanson de Mbenda. Puis nous retrouverons Jean-Noël Ducasse en conversation avec Justin Taylor, qui est actuellement en tournée en Australie avec le Australian Brandenburg Orchestra. Mais tout cela après une courte pause. À tout de suite.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On est en ligne avec Justin Taylor, qui est en tournée en Australie avec The Australian Brandenburg Orchestra en ce mois de juillet. Bonjour et bienvenue sur SBS in French.
Bonjour.
Racontez-nous les concerts, vos débuts en Australie, ces concerts dans le cadre de Night in Versailles.
Oui, alors je suis très très heureux de venir pour la première fois en Australie et de jouer avec cet orchestre dont j'avais déjà entendu parler par leurs enregistrements. Et on va faire donc à Sydney et à Melbourne un programme autour de la musique française, de la musique versaillaise des 17 et 18e siècle. Et puis en seconde partie, il y aura aussi un peu de Johann Sebastian Bach, parce que c'est vrai que dès qu'on pense à la musique baroque et au clavecin, assez vite on arrive à cette figure majeure. Donc voilà, ça va être un programme très varié. Je me réjouis vraiment de faire ces concerts.
Et vous jouez d'un instrument spécial ?
Absolument, moi je suis claveciniste. Alors des fois, quand je rencontre des gens dans le train, ils me disent « Vous êtes quoi ?» Donc je joue effectivement du clavecin, qui est un instrument à clavier qui de loin ressemble pas mal au piano. Mais en fait, l'émission du son est complètement différente. Parce que si le piano est un instrument à cordes frappées, le clavecin est un instrument à cordes pincées. Et c'était un peu l'instrument roi à Versailles, justement, au 18e siècle. Voilà, donc je fais carrière avec cet instrument.
Alors justement, parlons de votre carrière professionnelle comme musicien. Vous avez commencé très jeune, d'après ce que je comprends.
Écoutez, oui, j'ai commencé le clavecin, moi, à 9 ans. J'avais fait quelques années de piano d'abord, et puis j'ai découvert un peu par hasard cet instrument qui m'a tout de suite intrigué. Et donc voilà, et ça fait presque maintenant une dizaine d'années que j'ai la chance de faire des enregistrements et puis de parcourir le monde pour faire des concerts et partager mon amour du clavecin.
Vous jouez aussi du piano, d'après ce que je comprends.
Oui, bah c'est vrai que souvent certains clavecinistes font les deux. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par le piano. Comme je vous disais, j'ai fait du clavecin assez jeune, à 9-10 ans. Et depuis cet âge-là, je fais vraiment les deux. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est surtout relier un compositeur avec l'instrument qu'il avait. Donc, c'est pour ça que le clavecin est indispensable pour jouer toute la musique baroque de Rameau, Bach, Purcell, Handel. Mais par exemple, un de mes prochains projets, c'est aussi d'enregistrer les préludes de Chopin, donc un compositeur romantique qui est né en 1810, mort en 1848, et d'enregistrer ses préludes sur l'instrument que Chopin avait, qui est en fait très différent des pianos d'aujourd'hui. Donc c'est cet alignement des instruments d'époque avec leur compositeur qui, moi, me fascine, et je pense que c'est aussi une très belle manière de transmettre cette musique au public.
D'après ce que je comprends, vous avez aussi une discographie impressionnante.
Impressionnant, je sais pas, mais oui, je crois que j'ai fait une dizaine d'enregistrements déjà, mais c'est vrai que c'est ce qui est aussi fascinant avec la musique baroque, c'est qu'il y a encore plein de musique à redécouvrir, donc c'est vrai que c'est très très stimulant, très enrichissant, et puis aujourd'hui, alors c'est vrai que le disque physique, est, on a beaucoup dit qu'il était en perte de vitesse, mais il y a encore des gens qui écoutent des disques. Et puis toute la digitalisation a aussi permis de toucher un public finalement beaucoup plus nombreux. Donc je pense que l'enregistrement est pas mort du tout, bien au contraire. Et pour des instruments comme le clavecin, qui sont pas forcément toujours faciles à entendre près de chez soi, c'est vrai que de faire des enregistrements qui sont ensuite mis sur les plateformes d'écoute, c'est voilà, un moyen de démocratiser le clavecin.
Il y a des mentors qui vous ont influencé, qui vous ont inspiré?
Il y a bien sûr des grandes figures de clavecinistes. Je pense à Scott Ross, que moi j'ai pas pu entendre parce qu'il est mort avant que je naisse. J'ai entendu Gustav Leonhardt, qui aussi est un des pionniers du clavecin. Mais j'ai aussi eu la chance de, moi j'ai grandi à Angers dans l'ouest de la France, et j'ai eu la chance de rencontrer dès le début une très très bonne professeure, Françoise Marmin, voilà, qui n'a pas eu de carrière en tant que soliste, mais qui est une professeure absolument géniale. Et donc finalement, c'est surtout elle qui m'a donné cet amour du clavecin.
Alors là, vous êtes actuellement à Sydney, avant de venir à Melbourne. J'imagine que vous avez pu visiter le City Recital Hall.
Alors écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis arrivé hier soir très tardivement à Sydney, donc je n'ai pas encore eu la chance de visiter la salle du concert, parce que ce matin j'ai répété un peu pour découvrir les clavecins, parce que c'est vrai que c'est toujours pour nous clavecinistes, on voyage évidemment jamais avec notre instrument, donc à chaque fois il faut se familiariser avec des clavecins qu'on connaît pas. Donc la priorité là de cette matinée pour moi, c'était surtout de découvrir les clavecins que j'allais jouer, mais j'ai pas encore vu la salle, qui a l'air belle d'après les photos, mais j'ai pas joué dedans.
Alors revenons au concert, peut-être un petit rappel du répertoire que vous allez présenter.
Alors la première partie sera une partie de musique exclusivement française, donc avec des compositeurs relativement connus comme Rameau, et puis d'autres un peu moins connus, d'Englebert, Dufli, mais ça montre un peu tout l'extraordinaire panorama de la musique française pour clavecin, où il y aura un peu de clavecin solo, du clavecin en musique de chambre aussi, voilà, pour montrer différents aspects du clavecin. Et la deuxième partie sera consacrée à d'autres compositeurs. Je commencerai par jouer le concerto italien de Johann Sebastian Bach, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Ensuite, il y aura un concerto pour hautbois, et puis on va terminer avec une œuvre absolument exceptionnelle, qui est le concerto pour quatre clavecins de Johann Sebastian Bach. Donc, faut vous imaginer 700 cordes pincées accompagnées par violon, alto, violoncelle. Donc voilà, ça va être vraiment un peu la fête du clavecin pour terminer ce concert.
Et d'après ce que je comprends, vous allez rejoindre trois générations d'Australiens pour une ode au clavecin, c'est ça?
Oui, absolument. Oui, c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir aussi de rencontrer d'autres classinistes. C'est vrai, comme c'est un peu comme le piano, c'est un instrument relativement solitaire. On n'a pas vraiment l'habitude de jouer souvent avec d'autres classinistes. Donc là, je me réjouis vraiment de rencontrer Paul Dyer, qui est donc le directeur et le chef de l'Australian Brandenburg Orchestra, et deux autres classinistes que je connais pas encore. Mais voilà, justement ce soir, on se retrouve tous pour apprendre à se connaître et puis travailler sur cette œuvre qui est assez géniale.
Et quelle a été votre réaction quand vous aviez reçu l'invitation pour jouer avec The Australian Brandenburg Orchestra?
Déjà j'étais très très heureux, très très honoré de voilà, parce que c'est vrai que c'est évidemment une marque de confiance quand on est invité dans des orchestres comme ça assez loin de chez nous, et très vite j'étais aussi très touché de voir l'enthousiasme qu'il y a autour de cet orchestre, de la musique baroque, parce que c'est vrai que bon, moi j'habite en France, donc ça fait longtemps qu'il y a cette tradition de l'interprétation historique de ce répertoire. Mais c'est pas évident partout, même aux États-Unis, par exemple, on pourrait se dire qu'il y a une grande tradition, mais j'y suis allé récemment, enfin, en fait pas tant que ça, et de voir qu'il y a voilà toute cette énergie qui est déployée en Australie pour faire vivre ce répertoire, ces instruments, ça m'a j'étais très 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 heureux et donc modestement très content de participer à cet élan.
Justin Taylor, que diriez-vous aux jeunes, surtout qui nous écoutent, pour venir assister au spectacle programmé pour ce mois de juillet?
Eh bien, si vous connaissez la musique baroque, on vous a préparé un petit programme où il n'y a que des œuvres absolument géniales. Et si vous ne connaissez pas du tout, il faut se dire qu'en fait, la musique baroque est beaucoup plus proche de la musique actuelle que ne l'est, par exemple, une symphonie de Mozart ou un opéra de Wagner. C'est un peu basé, je dirais, sur les mêmes fondamentaux que la musique de nos jours, c'est-à-dire la danse, le rythme, des carrures assez claires qui se répètent. Donc en fait, c'est une musique beaucoup plus accessible que ce qu'on imagine. Et vraiment, je pense que c'est une musique qui peut vraiment toucher tout le monde. Donc voilà. En tout cas, moi je connaissais pas du tout. Et c'est d'avoir été en contact à un concert comme ça un peu par hasard qui m'a fait aimer cette musique. Donc je pense qu'il faut y aller sans aucun a priori, et ça peut que vous plaire.
Et peut-être une dernière question, vos autres projets après les concerts en Australie?
C'est vrai que l'été, c'est souvent une période très chargée pour les musiciens. Donc après l'Australie, je retourne en Europe pour faire des récitals en Pologne, au Portugal, et puis en France au Festival de la Rogue d'Oteron, qui est un très grand festival de piano, et puis maintenant de classin. Et puis après, début août, je rejoins mon ensemble de musique de chambre, et on fait aussi pas mal de concerts entre la France, la Belgique, l'Allemagne. Voilà, un été bien chargé.
Justin Taylor, merci d'être sur les ondes de Radio SBS et bon séjour en Australie.
Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi 4 juillet. Au moins 4 manifestants pro-palestiniens grimpent sur le toit du Parlement à Canberra. En France, Roland Dumas, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères et ex-président du Conseil constitutionnel, est mort hier, alors que des tractations de l'entrée de tour des législatives se poursuivre. Et le Hezbollah confirme la mort d'un important chef militaire dans une frappe israélienne. Voilà, notre émission arrive bientôt à sa fin. Merci infiniment de nous avoir suivis ce jeudi après-midi. Prochaine édition, c'est samedi, même heure. Je vous laisse en compagnie des frères Timal avec Ti Paradis. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.